chants qui nous ont vraiment encouragés les uns et les autres, voilà, à nous approcher de lui, à se donner à lui et de s'abandonner à lui pleinement, sans arrière-pensée. Parce que, vous savez, la tradition fait que souvent, on y va en disant « j'ai fait mon devoir ce matin, je suis venu au culte, je suis là, j'ai prié, j'ai chanté, j'ai écouté, et puis maintenant je rentre. Et puis à dimanche prochain. » Mais cela va au-delà de cela. Ce que nous vivons ce matin, c'est quelque chose d'important. D'abord, la communion fraternelle entre les uns et les autres. Dans l'unité de l'esprit, dans le désir profond de vivre une dimension, on peut dire vraiment communautaire et non pas individuelle. On ne vient pas chacun séparément vers Dieu, on vient tous ensemble vers Dieu. Et Jésus, souvent lui, dans son ministère, il allait dans les lieux de culte. Il venait dans les synagogues. Quand vous regardez dans les évangiles, Jésus dit, Jésus rentra dans une synagogue et enseigna. Le jour du sabbat. Le sabbat, oh là là. Comment on peut être aussi attaché parfois à ce symbole, le sabbat. Des chrétiens comme des non-chrétiens, juifs, qui sont attachés plus au sabbat qu'à Dieu lui-même. Et je voudrais lire avec vous un passage dans l'évangile de Marc au chapitre 3, où justement Jésus entra dans une synagogue. Évangile de Marc, hein, chapitre 3, premier verset. Vous y êtes ? Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient, ils au pluriel, donc tous les présents, je ne dirais pas comme nous ce matin. Ils observaient donc Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant les regards sur eux avec indignation et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Imaginez la scène. Jésus entre dans la synagogue et tout le monde le suit du regard. Il va vers le centre de la synagogue, comme on enseigne la synagogue. Il est là, tous ses regards sont fixés sur lui. Et en même temps, on a l'impression qu'ils sont en train de loucher. Ils regardent l'homme à la main sèche, qui, je pense, ils ont amené volontairement dans ce lieu. Parce que quelqu'un qui était infirme ne pouvait pas entrer dans la synagogue, bien pur. Donc, ils l'ont amené là, comme à l'heure pour Jésus. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Qu'est-ce qu'il va en faire ? Mais Jésus connaît ce qui est dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas ? Déjà, il est dans son cœur en colère, et en même temps, il est affligé de voir le endurcissement. La tradition, frères et sœurs. La tradition, c'est quelque chose qui est terrible. on fait plein de choses par tradition. On fait aussi des interdits par tradition. Plein de choses dans la vie aujourd'hui ont été liées à des traditions anciennes où ceci est interdit, ceci est autorisé. On doit faire telle chose tel jour et une autre chose un autre jour. Et là, le fait que cet homme, en plus, c'est un comble, on fait entrer dans la maison de Dieu quelqu'un que la tradition interdit d'y entrer. C'est un peu paradoxal. Mais c'est pour démontrer, finalement, ils veulent démontrer que Jésus est en dehors de la tradition judaïque et qu'il est un homme dangereux, qu'il est un révolutionnaire, qu'il est un rebelle et qu'il n'y a que la mort qui puisse les en délivrer. Et on le sait, ils l'ont fait mourir sur le bois du calvaire. Seulement, la mort n'a pas eu la conclusion qu'ils espéraient. Christ est ressuscité, il est vivant et il intercède pour chacun d'entre nous. Mais je reviens à la main sèche. Une main pour un homme, c'est quelque chose d'important, ou une femme. Une main, lorsqu'on n'a qu'une seule main, on est bien handicapé. Quand on a un bras qui tombe et qu'on ne peut pas bouger, relever, c'est un handicap terrible. Une main saine. Une main solide. Il y a plein d'expressions. Une main vigoureuse. Une main travailleuse. Une main habile. Combien de qualificatifs trouve-t-on dans la vie courante? On voit des qualificatifs qui sont positifs. D'autres qui le sont moins. Mais on met une main violente. Alors là. Une main vindicative. On pointe du doigt. Insolente. Et des gestes insolents avec la main. Hypocrite. On serre la main, mais des fois, une main bien molle. Une main fermée. Une main cupide. Grappe-sous. Très négatif. C'est une main. Une main que nous avons les uns et les autres. Mais cette main sèche, elle est inutile. C'est un fardeau, c'est un handicap qu'on ne peut pas mettre en mouvement. N'avez-vous vu parfois le matin, lorsque vous vous levez, vous avez dormi, le coude un peu trop plié, et puis vous avez une main, mais vous n'arrivez plus à la bouger, elle est inerte, on veut... Quand on est pour la vie entière comme ça, hein ? Quand on est la vie entière avec une main sèche, on a bien le droit d'être guéri, non? Est-ce qu'on désire être guéri ou bien on veut vivre tout le temps comme ça? Tous les adjectifs que j'ai pu lire et que j'ai pu vous donner expriment beaucoup de choses. On dit on a une main gauche. Et pourtant, un gaucher est à droite. N'est-ce pas? Oui. Au moins un qui répond. Mais celui qui a une main sèche, il ne peut pas s'en servir. Elle est inutile. On ne peut rien exprimer. Vous savez, moi j'aime bien parler avec mes mains et mes bras. Si j'ai mon bras sur le côté que je ne peux plus le bouger, ça va être dur à supporter. Pour moi. Peut-être pour les autres, ce sera pas mal. Mais l'action, on a besoin d'action. On a besoin d'utiliser nos mains, qui sont en somme le symbole de l'ouvrage, du travail que l'on fait. Les jambes, c'est la marche, mais les mains. Malgré que, rappelez-vous de cet homme qui est né en Australie, dont vous avez vu peut-être des vidéos, qui est fils d'un pasteur, et qui est né sans bras, avec des tout petits pieds, et qui pourtant rayonne de joie. Rayonne de joie d'être une créature néanmoins merveilleuse. et qui vit quelque chose de fort avec le Seigneur, parce que le Seigneur l'a touché dans la profondeur de son cœur. C'est pas parce qu'il est le fils d'un pasteur qu'il est croyant, hein, qu'il est converti. Non, c'est parce que Dieu l'a touché par sa grâce et a fait de lui une créature merveilleuse qui peut témoigner même à travers son handicap de cette richesse qui est en lui, que Dieu a mis en lui. Jésus savait que c'était un piège. On ne peut rien faire le jour du sabbat. On ne peut pas faire même parcourir une distance de plus de 500 mètres, je crois, hein, dans la journée. Mais ils sont malins, les Juifs, parce qu'ils ont mis des... Ils ont fait 500 mètres, puis il y a un autre lieu de cela, ils peuvent encore faire 500 mètres, et puis après... On tourne la loi. Mais ils veulent le surprendre. On ne peut pas guérir un jour de sabbat. C'est un travail. Est-ce que la guérison est un travail? Si quelqu'un est guéri parmi nous, est-ce que celui qui a prié pour lui a fait un travail? Ou il a été simplement un instrument dans la main de Dieu? C'est ce que nous devons voir. Regardez, lorsque tout à l'heure, plusieurs se sont avancés pour vraiment être convaincus que Christ les aime. La prière de frère, on dit qu'elle est efficace. La prière du juste est efficace. C'est la prière. Dieu entend et répond. Et donne une réponse. Parce que si on veut se tourner vers Christ, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... C'est pas un oui, il y a un non. C'est un oui. Et on ne peut pas repartir si on prie pour, avec tout notre cœur, pour celui qui, dans les doutes, on ne peut pas... être nous dans le doute aussi que ça ne va pas rien changer dans sa vie. Je crois que ce matin, des choses ont changé dans des vies. Que Dieu a opéré des actions puissantes à travers ce moment de prière, toute simple. C'est un piège, mais Jésus s'en fiche. Parce qu'il est vainqueur. Vous savez, si vous êtes arrivé d'être parfois certain qu'on va vous tromper, ça vous est pas arrivé, ça, avec une personne. Vous êtes sûr qu'elle va vous tromper, mais vous y allez quand même. Parce qu'à travers notre démarche et notre avancée vers cette personne, eh ben, peut-être que ce qu'il avait mis dans sa tête ne va pas pouvoir se réaliser. On peut être trompé, mais pas dupe, pas naïf. Mais savoir qu'à travers notre démarche, la position de cette personne va sûrement changer. Parce qu'on y vient avec Christ en nous. Christ en nous. Christ est omniscient, omnipotent. Il est Dieu. Et il agit en tant que Dieu. Il se révèle en tant que Dieu. Il dit à cet homme, viens au milieu, devant tout le monde. Que ce soit pas fait en catimini, dans un petit coin de la synagogue, ou à la porte, dans un recoin près de la porte. Non, en pleine vision. Et il dit à cet homme, tends ta main. Mais comment va-t-il tendre la main? Il ne peut pas la bouger. Il ne peut pas la bouger. Mais la parole a une telle puissance. Comme dire que le bras de cet homme se lève et la main se tend. Et elle est guérie. Elle est guérie. Et c'est un scandale. Quand Dieu nous garde les uns et les autres, frères et sœurs, de penser une telle chose lorsque Dieu agit avec puissance au milieu de nous. Comme on entend parfois dans certaines conventions ou autres, dire oui, c'est de la manipulation. Ce n'était pas un vrai malade. C'était un faux paralysé. Il était dans son fauteuil roulant, mais c'est invalide. On entend cela. Mais quand les documents médicaux sont là et que la réalisation pleine et entière de la guérison est visible avec un document médical. Qui peut douter de la puissance de Dieu et accuser de blasphème celui qui guérit? C'est ce qu'ils ont fait à Jésus. Ils blasphémaient en guérissant. cet homme est debout. Dans le texte, on ne dit pas ce qu'il fait ensuite. On n'en parle pas. Mais je suis persuadé qu'il n'est pas resté indifférent à ce que Jésus lui avait fait et qu'il a dû le suivre. Et le suivre là où Jésus lui a dit « Mais non, va donc témoigner. » Marais que souvent Jésus disait « Taisez-vous, allez voir les sacrificateurs pour constater la guérison. » Il ne voulait pas en attirer un orgueil. « Étends ta main. » Peut-être que ce matin, au milieu de nous, certains semblent bien valides, mais leurs bras sont bien paralysés. Leurs bras sont paralysés parce que leurs actions ne mènent à rien. Le malin travaille, a dit quelqu'un un jour, 7 jours sur 7. Et la guerre contre lui doit continuer, même le jour du sabbat. Nous sommes en guerre, frères et sœurs. Et à travers nos difficultés, nos infirmités, nos douleurs, nos souffrances, le diable est à l'œuvre et veut nous détourner de la vérité. Qu'on puisse lever le poing vers Dieu en disant « Qu'est-ce que tu fais, Seigneur ? Pourquoi ne me guéris-tu pas ? Pourquoi me maintiens-tu dans cette position ? Ce n'est pas juste !» Et on entend ces cris qui montent des cœurs des chrétiens aujourd'hui. Mais le temps de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Et notre position que nous avons par rapport à la guérison, souvent, elle est extrême. On veut que dès qu'on impose les mains à quelqu'un, il soit guéri. Mais si Dieu ne veut pas, je vais faire scandale peut-être là, en disant cela. Mais parfois Dieu ne veut pas que la personne guérisse à cet instant-là, parce qu'il y a autre chose à faire dans sa vie. Il y a des guérisons qui ne sont pas des guérisons physiques, il y a des guérisons du cœur, il y a des guérisons de l'âme, où les cœurs doivent être touchés, transformés, bouleversés, afin que la vraie guérison se manifeste. Quand nous regardons combien de fois des personnes qui sont en bonne santé, qui osent aussi lever le poing. C'est parce que leur cœur n'est pas touché. Leur cœur n'a pas été touché par la grâce. Ce matin, je voudrais prier tout à l'heure pour que cette grâce se répande dans des cœurs et dans des vies et qu'il y ait vraiment un changement de comportement, d'attitude dans les uns et les autres. On n'a pas à regarder l'autre, on a à se regarder soi-même. Parce qu'on a tous et toutes des faiblesses. Et parfois de très grandes faiblesses qu'on veut cacher. Mais Seigneur veut ce matin que ces faiblesses soient guéries. Cette sécheresse de cœur qui est souvent présente. Et dans cette période, dans cette ère que nous vivons, combien de dureté de cœur et de... On voit aujourd'hui d'égoïsmes qui sont manifestés. Je regardais ce matin, je regardais le journal, je le reçois tous les jours, tant je mets mon nez dedans quand même pour apprendre des choses. Et il y avait un sondage d'opinion concernant les migrants. On disait que 60% des Français refusent la présence de migrants sur leur territoire. 60%. Il y en a trop. Mais quand on regarde la misère que ces personnes ont vécue, ces horreurs, et qu'il y a un espoir possible pour eux. Dans l'Ancien Testament, il est parlé accueillez l'étranger. Ne regardez pas comme un ennemi. Oh, il peut y avoir des méchants. Mais parmi les chrétiens, il y a des méchants. Hein, ils se disent chrétiens, mais ils sont méchants. Parce que l'amour qui puisse se manifester entre eux dénote qu'il n'y a pas vraiment l'amour. Je dis peut-être que je vais faire scandale, mais je me crois. Réfléchissez, frères et sœurs. Qu'il y en a qui professent Jésus-Christ et qui ne vivent pas Jésus-Christ. Et qui ont besoin de faire une rupture avec le modèle de vie qui est le leur aujourd'hui. Être renouvelé, corrigé, se laisser corriger par Dieu. Jésus a été envoyé pour guérir, pour sauver, pour délivrer, pour relever, pour encourager. Nous le savons. Les Juifs de la synagogue le savaient aussi parce qu'ils lisaient l'Écriture. C'était les lettrés qui étaient là. Ils connaissaient l'Écriture. Mais ils refusaient que cette Écriture puisse être manifestée dans une personne. Quand Jésus est allé à Capernaum dans sa famille, on lui dit « Mais qui est celui-ci ? C'est le fils du charpentier. Comment peut-il dire de telles choses ? Comment l'a-t-il appris ? Il est le fils de Marie. Ses frères sont ceci, cela, cela. Comment peut-il avoir cette autorité ? D'où cela vient-il ? » Ils ne reconnaissent pas que l'un des leurs, puisse être le Messie. Celui qui Dieu a dit, celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. L'obéissance à ce que Dieu dit. Ce matin, des paroles ont été dites où des gens ont pu être interpellés parmi nous. Sachez que l'inspiration vient de Dieu. Peut-être nos paroles sont parfois, comment pourrais-je dire, pas tout à fait justes. Mais quand Dieu parle, quand Dieu dit quelque chose à travers une personne, écoutez et obéissez. Ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Jésus a dit à plusieurs personnes, lève-toi et marche. Le paralytique, l'homme qui était malade depuis 38 ans, et bien d'autres, les apôtres, à la porte du temple, quand ils ont dit au boiteux, lève-toi et marche. Et qu'il sautait comme un cabri, on pourrait dire. Qu'il était dans une joie énorme. Et qu'on les a accusés d'être des suppôts de Satan. Ne soyez pas étonnés, frères et sœurs, si des accusations vous tombent dessus. Ne soyez pas étonnés si on veut vous rejeter, on veut vous considérer comme des personnes, des femmes et des hommes excessifs dans leur foi. Tu en dis trop là. Tais-toi. Tu touches à ma vie personnelle. Ben oui. On peut toucher les vies et faire que les vies soient changées. Si vous êtes ici, frères et sœurs, la plupart d'entre vous, c'est que vous avez entendu un jour un témoignage. Non ? Et que ce témoignage vous a frappé. Et que ça vous a dit, si j'allais voir. Parce que votre vie, frères et sœurs, est extrêmement importante aujourd'hui dans le témoignage que vous pouvez porter de la foi véritable manifestée. Non pas simplement par des paroles, mais par la vie changée et transformée. Tout à l'heure, je regardais Jonathan qui sautait de joie. Amen. Gaucher, hein ? Mais la vie, donnée en abondance. Parce que Christ donne la vie à ses brebis en abondance. Si un chrétien est complètement amorphe, mou, où est sa foi ? Celui qui avait la main sèche a tendu sa main. La main a été guérie. La main sèche devient une main vivante. Il va pouvoir semer. Il va pouvoir récolter. Il va pouvoir lever les bras, ensemble, les deux bras, pas un seul. Il va pouvoir marcher, sauter. Il y a quelques années, on avait fait une farandole dans l'église. Et puis, je crois que c'était moi qui avais lancé le mouvement. Le jeune, quoi. Hein ? Et on avait fait tout le tour de l'église. C'était un peu plus petit qu'ici avant. Mais la joie du Seigneur nous avait, en somme, traversé. Alors, sautons de joie. Semons. Et nous verrons la semence levée. Il y a tellement d'activités à avoir. Hein ? On parlait l'autre jour du ménage. Tiens, il faut les deux mains souvent pour tenir le balai. Hein ? Oui, parce qu'avec une main, c'est pas facile. Ou là, pour ramasser la poussière, il faut bien une balayette et puis une pelle. Hein ? Le ménage, c'est une tâche qu'on peut faire avec joie. En général, on considère ça comme une corvée. Vous savez, à l'armée, autrefois, lorsque les gens au service militaire, il y avait des corvées pour ceux qui étaient insoumis. Et ces corvées, pour ceux qui l'ont fait, vous en souvenez peut-être ? Bon, c'est pas une corvée. Aujourd'hui, Dieu nous donne des capacités, des qualités, les uns et les autres, pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Pas simplement être ici. Vous savez, la place n'est pas toujours... On n'a pas à l'envier, la place. Hein. Parce qu'il est écrit que si celui qui prêche, il est sous le regard de Dieu, et il sera... Oui, Daniel ? Jugé plus sévèrement. S'il y en a qui ont les quelques coups, d'autres en recevra beaucoup. Parce qu'on a à rendre compte de Dieu de ce qu'on dit. Rendre compte à Dieu. Dieu veut nous donner de vivre pleinement les richesses qu'il nous accorde. Main sèche, peut-être encore, mais tout à l'heure, main bien vivante, avec un désir profond d'honorer et de glorifier le Seigneur. Il veut apporter à chacun de nous un soutien fort. C'est qu'il y a encore des cris qui montent dans les cœurs. Il y a des cris qui sont là. Mais si on se tourne vers lui, comme dit le psaume 34, le malheureux crie et l'Éternel l'entend. Si on tourne les regards vers lui, on devient rayonnant de joie. Tout cet aspect-là est important aujourd'hui dans notre vie. Soyons ceux qui nous tournons vers Dieu et non pas vers les hommes. Parce qu'un homme peut donner une réponse, oui, selon ce qu'il comprend de la situation. Mais Dieu, lui, connaît la situation. Et il peut donner ce matin à plusieurs d'entre nous des réponses à leurs problèmes. Et si on se tourne vers lui, dit l'Écriture, on est réellement libre. Le Fils nous a franchis pour être réellement libre. Liberté par rapport à nos problèmes, liberté par rapport à nos contraintes même dans lesquelles nous vivons, le monde du travail, les activités extérieures. Dieu est avec nous, il est avec nous. Et c'est fini de la main sèche. Soyez, frères et sœurs, encouragés ce matin à vraiment décider de tendre la main vers Dieu. Il nous dit, tends ta main pour qu'il apprenne. Parce que lui, il nous tend la main depuis longtemps. Il tend la main à des hommes, des femmes ici qui n'ont jamais pris la main de Christ. C'est comme s'ils avaient le bras qui était incapable de se lever. Mais Dieu veut donner ce matin à ceux qui sont dans cette situation la capacité de prendre la main. De la saisir et de la garder, pas de la relâcher, pas une main molle, mais une main vigoureuse. Une main vigoureuse qui est prête à servir, à honorer le Seigneur. Je prends ta main et je te suis. Je vais avec toi. Je vais plus loin que j'ai pu aller aujourd'hui. Il y a ce matin une invitation, frères et sœurs, à se livrer totalement, s'abandonner totalement dans les mains de Dieu pour aller au-delà de ce que vous pouvez voir de vos yeux. C'est vrai que on dit la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est juste au ras. C'est pas bien loin. Mais qu'importe, c'est suffisamment éclairé pour qu'on avance. Alors ce matin, je vous encourage à décider de le suivre pleinement, avec joie, non pas avec traînant les pieds, mais avec joie. Dieu vous demande, frères et sœurs, d'avancer. On va prier. Seigneur, ce matin, tu appelles à toi. Tu appelles à toi ceux qui sont démunis, ceux qui sont fragiles, ceux qui sont faibles, ceux qui pensent être abandonnés, ceux qui pensent n'avoir aucune capacité, ceux qui pensent être des moins que rien. Tu appelles, Seigneur, à toi et tu veux donner la vigueur. Le faible dit « Je suis fort ». Le pauvre dit « Je suis riche ». Seigneur, touche des vies ce matin. Renouvelle des vies, Seigneur. Que tout ce qui peut être attaché de malsain, de mauvais, puisse être arraché par ta main. C'est comme si des vêtements sales, impurs, étaient arrachés et des vêtements nouveaux remis sur le corps, sur l'âme de celui qui est perdu. Merci pour ce que tu donnes ce matin à chacun de nous, Seigneur, à moi comme à mes frères et sœurs. Je veux te bénir et te louer de la merveilleuse vie que nous avons avec toi, des grandes choses que tu nous donnes de vivre, et de ces témoins que tu veux, ces témoins qui vivent pleinement de toi, qui ont reconnu que sans toi, ils ne peuvent rien faire et qui le manifestent dans le quotidien de leur vie. Merci et loué sois-tu, Seigneur, ce matin. Amen. 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 Amen.